France Culture, il est 16h. Tout de suite, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Nous vous proposons le dernier volet des émissions de Culture Science, consacré tout au long de la semaine à la préparation des épreuves scientifiques du bac. Comme toujours, vos réactions sont attendues sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Physique-chimie, comment préparer au mieux le bac pro ? Le bac professionnel fête cette année ses 30 ans. Il a été créé en 1985 par Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Éducation. Il s'agissait de relever le niveau de formation de la population active en France. Conçu pour permettre une entrée rapide dans la vie professionnelle, le bac pro conduit également à des études supérieures en BTS par exemple. Néanmoins, il peine à se départir d'une image de filière réservée aux élèves qui n'ont pas pu suivre les formations des bacs classiques. Alors qu'il reste mal connu et sous-valorisé 30 ans après sa création, le bac pro concerne près de 200 000 élèves, soit 29% des 685 000 candidats au bac en 2015. Au-delà des considérations générales sur les différences entre la filière du bac pro et les autres, nous allons nous concentrer sur l'épreuve de physique-chimie. Elle se révèle d'autant plus intéressante qu'une réforme de 2009 a conduit à partir de 2012 à la suppression de l'épreuve ponctuelle finale au profit d'un contrôle en cours de formation. Ainsi, le bac pro expérimente une évolution à laquelle les autres filières pensent parfois et qui, semble-t-il, reste délicate à mettre en œuvre. Nous verrons donc ce qu'apporte ce type de contrôle en physique-chimie. Enfin, le bac, qu'il soit pro ou général, est un moment particulier dans la vie scolaire des élèves où il est nécessaire de se préparer au mieux et nous demanderons à une neurologue des conseils qui, eux, concernent les élèves de toutes les filières. Pour cela, nous recevons aujourd'hui en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio François Moussavou, qui est professeur de mathématiques et sciences physiques et chimiques en lycée professionnel à Marseille. Jean-Luc Pernette est professeur également de mathématiques et physique, sciences physiques et chimiques en lycée professionnel à Autun. Et Catherine Thomas Antérion est neurologue, docteur en neuropsychologie et spécialiste de la mémoire. Elle est membre de l'Observatoire des mémoires, le B2V. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques, tout en bas de la page de l'émission sur franceculture.fr. Jean-Luc Pernette, bonjour.
Bonjour Michel.
Peut-être faut-il commencer cette émission par le rappel de ce qui distingue le bac professionnel des filières générales. 30 ans après sa création, comment vous définiriez les spécificités de ce bac ?
Alors, le bac professionnel, c'est, comme son nom l'indique, orienté vers un domaine très concret du domaine professionnel, ce qui veut dire aussi que les bacs professionnels ont plusieurs secteurs réservés. Trois secteurs prédominants en mathématiques et six secteurs en sciences, ce qui permet en fait d'avoir une approche des sciences très pratique et très proche du futur métier des candidats.
Alors ces futurs métiers, en fait, ils sont extrêmement variés.
C'est très très variés.
Il y a des dizaines de spécialités.
Alors, on a à peu près 80 sortes de baccalauréat professionnel, ce qui effectivement donne un panel assez impressionnant. On peut parler par exemple d'un tailleur de pierre jusqu'au système de réseau informatique. Vous voyez qu'on passe de l'âge de pierre à l'âge numérique d'un élève à l'autre.
C'est lequel de dire. François Moussavou, bonjour.
Bonjour Michel.
Donc, comme Jean-Luc Pernette, vous enseignez dans un lycée professionnel à Marseille et vous avez peut-être, vous allez nous expliquer quelle est cette double compétence, car dans les lycées de la filière générale, les professeurs de physique-chimie sont professeurs de physique-chimie. Vous êtes également professeur de mathématiques.
Oui, effectivement, en lycée professionnel, on a plusieurs corps d'enseignants qui sont bivalents, en particulier en mathématiques et sciences physiques et chimiques. Donc, on enseigne alors deux matières pour l'éducation nationale. Peut-être trois pour l'université, puisque la physique et la chimie, ça reste deux matières différentes. Et on est encadré aussi par un corps d'inspecteurs qui, eux aussi, sont bivalents. Ce qui, là, par contre, est un cas unique, puisque l'autre bivalence du lycée professionnel, ce sont les lettres histoire, où ils ont des inspecteurs qui sont orientés soit lettres, soit histoire.
Il y a une raison au rapprochement des maths et de la physique-chimie sous un seul professeur, ou bien est-ce que...
Alors, des raisons objectives, il y en a sans doute, je ne les connais pas. Par contre, il y a énormément d'avantages à avoir ce rapprochement. Ça permet de réduire les équipes, donc d'avoir, pour des jeunes qui sont passés de l'école primaire où ils étaient en face à face avec un enseignant au collège où il y a une multiplication des intervenants, revenir dans un système où on est peut-être plus proche des élèves. Ensuite, l'avantage d'enseigner et les mathématiques et les sciences physiques et chimiques, c'est de pouvoir plus facilement faire le lien entre les deux disciplines. À l'heure où on nous parle beaucoup d'interdisciplinarité, faire de l'interdisciplinarité quand on a un seul intervenant, c'est beaucoup plus simple que quand il faut faire du travail en équipe ou du rapprochement en fait, de programmes différents.
Est-ce que ça enlève un peu d'abstraction aux mathématiques, justement, ce rapprochement avec la physique et la chimie ?
Les mathématiques au lycée professionnel n'ont pas forcément vocation à être particulièrement abstraites. On est beaucoup sur un travail de modélisation. Ce qui est important pour nous, c'est de prendre des situations, soit du domaine professionnel des élèves, soit de ce qu'on appelle la vie courante, de plaquer dessus un modèle mathématique, de résoudre mathématiquement une situation, et puis de revenir à la situation réelle. Cette démarche-là, elle se fait en mathématiques et elle est très proche de ce qu'on peut faire en physique aussi.
Très bien, on va y revenir plus en détail. Catherine Thomas-Antérion, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes avec nous en duplex depuis Lille. Vous venez de publier un livre qui est intitulé « La création artistique sous l'œil des neurosciences », mais ce n'est pas le sujet de notre émission d'aujourd'hui. En revanche, vous pourrez nous dire ce que les neurosciences nous apprennent sur l'utilisation de la mémoire, qui est l'une de vos spécialités, et sur la préparation psychologique qui est adaptée au passage d'épreuves telles que le bac. Alors votre discipline s'est-elle penchée sur cette situation particulière ?
Bien sûr, d'abord sur ce que va nécessiter la récupération des connaissances qu'on a acquises pendant son enseignement lorsqu'on passe un examen, que ce soit des connaissances sémantiques, des savoirs qui vont être organisés dans le cerveau, qu'on va finalement entre guillemets recracher, hein, ou au contraire qu'on va montrer dans des exercices. Et donc, on va pouvoir mieux voir si on les a automatisés, si on sait manipuler, par exemple, un exercice mathématique. Et encore mieux, dans une compétence appliquée par rapport à un domaine particulier, où là, on va vraiment voir en plus la capacité de l'étudiant à mettre en marche non pas seulement sa mémoire, mais ses fonctions exécutives. Planifier, résoudre un problème, aller chercher les informations qu'il a acquis au fil des enseignements.
Très bien, on va revenir à l'occasion de chaque étape de cette émission. Le bac professionnel a subi une réforme en 2012 qui est très importante puisque c'est la date à laquelle les évaluations ont changé de nature et on est passé d'un contrôle classique final par une épreuve du bac à un autre mode d'évaluation. Alors, qui veut, Jean-Luc Pernet, peut-être nous expliquer ce qui s'est passé et ce qui a changé?
Alors, ce qui a changé, comme vous le disiez, effectivement, on a supprimé cette épreuve terminale qui reposait sur une épreuve de 2 heures où on avait des mathématiques et des sciences physiques pour les secteurs industriels, ou d'une heure pour les secteurs plus tertiaires, on appelle aussi les secteurs de services. Et on a transformé en fait cette épreuve en ce qu'on appelle un contrôle en cours de formation. Alors, contrôle en cours de formation, on va appeler ça CCF, ce sera un petit peu plus court, qui est à distinguer du contrôle continu. Le contrôle continu, en fait, chaque instant de formation et d'évaluation contribue à la notation finale.
Alors qu'ici, il n'y a pas d'épreuve.
Il n'y a pas d'épreuve, tout à fait. Alors que dans le cadre d'un contrôle en cours de formation, on a une épreuve terminale qui va être morcelée sur l'année, ce qui permet de réduire les situations un petit peu de stress qu'on peut engendrer par un examen terminal tel que le bac qu'on connaît tous classiquement, qui repose sur une seule épreuve et qui est pas forcément toujours adapté aux élèves, puisque ce sont des enseignants qui ont été regroupés, qui ont harmonisé un sujet et qui le proposent nationalement.
Voilà, c'est ça une autre grande caractéristique, François Moussavou, c'est le fait que ces épreuves, qui jalonnent en fait l'année scolaire, sont créées, conçues par l'enseignant.
Oui, c'est l'enseignant qui est en charge de la formation, qui évalue lui-même ses élèves. Alors pour les élèves, a priori ça ne change pas grand-chose. Par contre pour les enseignants c'est important, parce que justement leur enseignement n'est plus vraiment piloté par l'examen. On a tous connu ça, l'enseignant qui doit boucler son programme parce qu'il ne sait pas ce qui va tomber à l'examen, et qui est obligé peut-être de passer un petit peu rapidement sur certaines notions. Quand on est en contrôle de cours, en cours de formation, on peut prendre le temps de travailler tel qu'on a envie de travailler, d'amener les élèves à leur rythme quand on a des, sur certains sujets de plus grande difficulté. Et on sait que quoi qu'il arrive, on a la main, entre guillemets, sur ce qu'on évaluera le jour de l'examen.
Ça évacue le risque aussi de tomber sur quelque chose du programme qui n'a pas été particulièrement bien traité en classe ou qu'on n'a pas eu le temps de traiter et qui tombe à l'épreuve.
Oui, tout à fait. Et ça permet aussi pour les différentes spécialités professionnelles d'adapter le sujet à la spécialité professionnelle des élèves. On peut citer l'exemple du BEP secteur 2 qui regroupait les métiers du bâtiment où une année en fait il y avait eu un sujet qui tournait autour de la construction d'un pont. Or il se trouve qu'à l'époque les techniciens froids et énergétiques, c'est-à-dire les frigoristes, étaient rattachés à la spécialité du bâtiment et s'étaient absolument pas retrouvés dans ce sujet qui leur parlait de travaux publics. Aujourd'hui ce genre d'événement ne peut plus arriver puisque l'enseignant connaît parfaitement ses élèves et adapte son épreuve, en tout cas les situations qu'il choisit, à un contexte familier pour les élèves.
En même temps, est-ce que ça diminue pas un petit peu le côté, je sais pas, cérémoniel du bac avec la disparition d'une épreuve finale, Jean-Luc Pernette, parce que ça ressemble à quelque chose d'un peu sacré dans l'imagerie du bac en tout cas.
Alors effectivement, on touche à quelque chose de sacré en fait pour l'esprit commun, enfin. Alors oui, il s'avère que quand on regarde les résultats, ça change pas forcément grand-chose aux résultats. Donc ça, c'est plutôt rassurant dans un point.
En termes de quoi ? En termes de
réussite. En termes de réussite. Je pense que ce qu'il y a surtout, c'est que les élèves de lycée pro ont besoin d'être rassurés dès leur entrée au lycée pro. Bon, les lycéens professionnels, vous l'avez rappelé en début d'émission, c'est environ un tiers des élèves qui arrivent du collège. Donc c'est quand même un nombre important de candidats. Et ils arrivent pour la plupart au lycée professionnel un petit peu en décalage avec le système qu'on leur propose jusqu'à maintenant. Donc il va falloir les remobiliser. Et pour les remobiliser, quoi de mieux que de leur proposer autre chose que ce que le système propose classiquement. Et là, en l'occurrence, on est en train de montrer que même l'examen va s'adapter en fait à leur, non pas difficulté, mais disons avec... la différence que le système peut leur accorder, sans pour autant amoindrir les niveaux. On pourrait donner des exemples, mais là, c'est peut-être pas. On ira peut-être plus loin dans ce sujet tout à l'heure. Ce que je voulais rajouter par rapport à cette épreuve qui était morcelée, il est intéressant aussi de savoir qu'on va évaluer les élèves oralement au cours de ces situations de CCF. Donc ça permet aussi de faciliter l'évaluation, et parce que un élève qui a quelques difficultés à produire un écrit, le professeur va pouvoir aller questionner l'élève, parce qu'il sait que l'élève peut répondre, et puis comme ça aller chercher un petit peu plus le niveau de l'élève finalement, qui n'est pas transcrit par une copie anonyme.
Il y a combien d'épreuves au cours de l'année de ce type ?
Alors, Pour les épreuves de CCF, on a deux temps pour les sciences physiques et deux temps pour les mathématiques sur l'année de terminale. Et puis, on va avoir en fait deux temps sur l'année de première pour la certification intermédiaire.
Très bien. Catherine Thomas-Antérion, comment vous analysez-vous cette différence de traitement entre les épreuves ponctuelles finales classiques et puis ce contrôle en cours de formation que vient de nous décrire Jean-Luc Pernette?
Eh bien, si on regarde ça du point de vue neuropsychologique, on peut se dire qu'on augmente déjà la motivation de l'enseignant, puisque l'enseignant, il va enseigner, il va apprendre, il va donner un socle commun à ses élèves, mais il va être responsable de l'évaluation. Donc forcément, sa motivation sera décuplée et il y aura en plus moins de monotonie, moins de routine au fil des mois, au fil des années. Donc ça, c'est tout gagné. Sans compter que les élèves, bien sûr, le ressentiront et eux-mêmes auront le sentiment d'avoir un vrai savoir adapté à leurs futurs besoins de métier. Pour ceux qui auront échappé aux filières générales parce qu'ils n'aimaient pas, ils seront peut-être rassurés. Mais il y a aussi des gens qui vont en bac pro par choix, parce qu'ils ont envie de faire un métier dans le concret. Et ils trouvent là une réponse. On va leur proposer des savoirs par des actions concrètes. Et on va les évaluer dans ces actions. Donc, cette motivation ne pourra que renforcer leur mémoire, puisqu'on sait que un des facteurs favorisants de la mémoire, c'est d'être motivé, de savoir à quoi ça sert. En plus, ce type d'enseignement va permettre de varier très souvent soit la manière d'enseigner, soit la matière, soit ce qu'on transmet. Et on sait là encore que pour renforcer les apprentissages, les associations en mémoire, il faut changer très souvent, tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, ce qu'on enseigne ou ce qu'on apprend. Donc forcément, dans l'apprentissage par compétences, on est gagnant de ce point de vue.
Une réaction et peut-être aussi une comparaison, maintenant que ça fait quelques années que cette réforme a été mise en place. Est-ce que vous avez un regard sur ce que ça a changé par rapport à vos élèves, à la façon qu'ils ont de réagir, François Moussavou?
Alors, clairement, les élèves que l'on avait avant 2012, qui ont passé les sessions précédentes, ne seraient pas capables d'avoir le bac aujourd'hui. A contrario, il n'est pas certain que les élèves qui ont le bac aujourd'hui pourraient réussir sur les épreuves d'avant 2012. C'est-à-dire qu'on évalue vraiment des choses différentes. Le contrôle en cours de formation, c'est une des raisons qui fait qu'on évalue des choses différentes, mais le plus important, bien entendu, c'est cette approche par compétences qui vient d'être citée. C'est-à-dire qu'on demande aux candidats et aux élèves de prendre du recul par rapport à ce qu'ils font. Et par contre, on est peut-être moins exigeant sur une certaine forme de technicité, sur tout ce qui est calcul ou tout ce qui est mémorisation de formules complexes, où là, en général, ça va être rappelé dans le sujet. Et ce qu'on va demander aux candidats, c'est d'être capable de mettre en œuvre les formules ou les éléments qu'on lui donne.
Jean-Luc Pernette aussi, une réaction à ça.
Je crois qu'en fait, comme disait François, l'approche par compétences a considérablement modifié les situations d'apprentissage. Je crois qu'on se positionne plus dans un cadre professionnalisant. C'est-à-dire, oui, on a énormément d'informations à notre disposition, on les laisse aux élèves. Et puis les élèves ont à montrer aussi compétences pour pouvoir en fait démêler un petit peu tout ça, savoir ce qui est utile, faire le tri. On pourrait citer en fait les 5 compétences qui sont évaluées au cours des CCF. Donc on a déjà la première compétence qui est s'approprier, c'est-à-dire un peu découvrir le sujet, trier les informations clés. Ensuite, on a analysé, raisonné. Là, dans cette compétence, on attend à ce que l'élève fasse une proposition d'hypothèse et de méthode de résolution. Ensuite, on a la compétence de réaliser. Donc là, c'est la mise en œuvre du protocole précité. Alors éventuellement, l'élève qui est en difficulté avec ça, nous, en tant qu'enseignant, on peut leur fournir ce qu'on appelle un protocole de secours. Ce qui permet de ne pas avoir de situation bloquante, c'est aussi très important pour l'élève parce qu'il va pouvoir quand même aller au bout de la démarche. Et puis une fois que tout a été réalisé, eh bien on va avoir une compétence de validation et pour valider en fait les hypothèses qui ont été formulées au départ. Et puis au travers de cette trame, il y a donc la compétence de communication qui va être évaluée, sous différentes formes. Ça peut être sous la forme des phrases qui vont être construites, mais aussi sur les unités qui vont être connues, etc.
Alors ça fait plusieurs années qu'on fait une émission de préparation au bac, en sciences et en physique-chimie pour ce qui me concerne. Et ce que vous nous dites là a beaucoup de points communs avec les épreuves avec documents qui ont été développées dans la filière générale, Jean-Luc Pernette.
Oui, effectivement. Je crois que ce qui y a un petit peu de différence, c'est que nous, ce qu'on va consigner, c'est plutôt le niveau d'acquisition des compétences, avec un niveau sur les connaissances également, puisqu'elles sont intimement liées. Mais ce qui est vraiment mis en avant, ce sont les compétences. Voilà, c'est vraiment, je pense, la distinction qu'il faudrait faire entre les deux.
François Moussavou.
On est dans un monde cognitif qui est en train de changer, en fait. Et on a moins besoin d'évaluer la mémoire, et il faut plutôt évaluer la capacité de la personne à trouver les connaissances quelque part. On n'a plus besoin, à la limite, d'avoir une règle à calcul pour faire je ne sais trop quel problème. On a les chiffres ou la machine à calculer sous la main. Par contre, ce qu'on va mesurer, c'est les capacités exécutives du sujet, c'est-à-dire comment il raisonne, c'est ce que vous venez de dire, comment il conceptualise, oui, comment il résout un problème, comment il inhibe une mauvaise réponse, comment il met à jour ses connaissances et ses savoirs. Donc quelque part, c'est une procédure, entre guillemets, plus intelligente, puisqu'on voit vraiment la personne en situation. évidemment, pour pouvoir faire la situation, il faut quand même avoir acquis un certain niveau de connaissance et de savoir. On ne peut pas complètement l'exclure. Mais on vérifie davantage avec ces méthodes vraiment la compétence, l'exécution et non seulement le savoir perroquet.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui autour de la question physique-chimie, comment préparer au mieux le bac pro avec nos invités François Moussavou et Jean-Luc Pernette qui sont professeurs de mathématiques et sciences physiques et chimiques en lycée professionnel et Catherine Thomas-Antérion, docteur en neuropsychologie et spécialiste de la mémoire. Je voudrais qu'on reste un instant sur cette différence entre compétence et connaissance parce que c'est quand même un point très important historiquement. L'enseignement a privilégié les connaissances justement par rapport à la réforme dont je parlais de l'enseignement général et des épreuves avec documents, là, il y a une évolution. Ce que vous nous dites là sur le contrôle en cours de formation pour les lycées professionnels va dans le même sens. Est-ce que, comme le dit Catherine Thomas-Antérion, on est en train de changer de modèle, en fait, d'évaluation des élèves, Jean-Luc Pernette?
Je crois qu'effectivement, on a senti un réel virage. Ça a été une vraie remise en question pour les enseignants, parce qu'on n'envisageait plus les... même si on parlait d'exercices, sous la même forme. On pourrait prendre un exemple. On va prendre un exemple mathématique ou sciences physiques. Hein. Enfin, qu'est-ce que tu préfères, François ?
Sciences physiques, parce qu'en fait, c'est le sujet de notre émission.
On y va sur les sciences physiques. Un sujet de CCF, à l'heure actuelle, où on va utiliser la mesure de la vitesse du son. Donc ça, c'est le cœur, on va dire, du TP en tant que tel. Donc les élèves vont avoir à mesurer la vitesse du son. Mais cette vitesse du son, en fait, va être exploitée pour répondre à un problème. Le problème est le suivant. On a trois élèves à Autun, je vais en profiter, qui observent...
Donc au sud du Morvan.
Au sud du Morvan, voilà, dans notre belle région de Bourgogne-Franche-Comté. Où ils observent par la fenêtre pendant un orage. Ils sont au téléphone tous les trois et ils écoutent en même temps. Ils voient l'éclair qui vient de tomber sur la cathédrale. Chacun d'eux compte le temps qui les sépare de la détonation du tonnerre. Et puis la question est de savoir où est-ce qu'ils se situaient l'un par rapport à l'autre. Et est-ce que l'éclair est réellement tombé sur la cathédrale ou non? Donc un problème de triangulation. Donc la question c'est de savoir est-ce que l'éclair est bien tombé sur la cathédrale? Et la suivante est de savoir aussi comment on va pouvoir procéder pour le faire. Donc l'idée principale qui est derrière c'est de mesurer la vitesse du son dans l'air, de savoir comment faire. Donc là, on va avoir une mémoire de procédure, puisqu'en fait, on aura étudié par avant comment mesurer la vitesse du son. Alors, ça peut être à l'aide de l'hexao, donc l'expérimentation assistée par ordinateur, ou par des manipulations plus classiques, qui ne nécessitent pas nécessairement un matériel très avancé. Donc l'élève va mettre en œuvre cette procédure, va arriver à une mesure expérimentale en laboratoire, et puis, à l'aide de cette mesure, va pouvoir répondre au problème. Et auparavant, qu'est-ce qu'on aurait proposé comme exercice? On aurait supposé calculer la vitesse du son dans l'air, donc là, la procédure est la même, mais ensuite on aurait dit Pierre est à 500 mètres du point d'impact, mesurer ou tracer le cercle, etc. Et on aurait en fait détaillé complètement la procédure sans vraiment faire en sorte que l'élève comprenne ce qui se passe.
En fait, c'est beaucoup plus difficile maintenant. De la même façon,
disons que ça demande
ça
du recul.
Ça fait pas appel à la même, au même mécanisme dans l'épreuve classique que vous venez de décrire. C'est plus de la mémoire. Il faut se souvenir.
Exactement. On est plus sur un contrôle de connaissances.
Voilà. Alors que ce que vous expliquez, c'est de trouver une procédure pour résoudre un problème. Ça demande à imaginer une solution qui n'est pas écrite et on ne peut pas faire appel uniquement à sa mémoire.
Tout à fait. Voilà. Enfin, il y a vraiment plusieurs facteurs. Il va falloir faire le tri dans tout ce qu'on connaît. Et en faire la synthèse et en extraire vraiment ce qui est utile pour pouvoir avancer. Mais c'est vraiment ce qui va se passer lorsqu'on sera un professionnel, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la situation à laquelle on va être confronté. Mais par contre, on a de multiples connaissances et de multiples compétences qui vont nous permettre de répondre à la situation à laquelle on doit faire face.
François Moussavou, un autre exemple peut-être pour illustrer cette différence d'approche entre le classique et puis ce contrôle en cours de formation.
Ce qui a longtemps été fait en lycée professionnel, à partir de 1998, on a demandé aux professeurs de sciences physiques et chimiques de lycée professionnel de faire manipuler les élèves. Donc il y a eu une première réforme en réalité en 1998 de l'épreuve de sciences de baccalauréat professionnel où il y avait une épreuve de TP obligatoire. Alors dans cette épreuve de TP, de travaux pratiques, on avait un protocole expérimental et les élèves devaient suivre ce protocole et réaliser, donc arriver à un résultat. On a observé très souvent de très bonnes notes à cette épreuve. C'était une épreuve que les élèves aimaient bien, qui réussissaient bien. Il suffisait de suivre un protocole. Ce qu'on leur demandait essentiellement comme compétence, c'était de savoir utiliser les outils de mesure du laboratoire, donc les oscilloscopes, les balances quand on avait un TP de mécanique. Et puis, en suivant pas à pas toutes les étapes du protocole, ils arrivaient à la fin, ils pouvaient avoir une excellente note sans avoir compris ce qu'ils avaient fait, en fait, quelle était la mesure qu'ils avaient réalisée. Aujourd'hui, ça, ce ne serait plus possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir une situation qui est identique aux situations qu'on avait avant. On a tout un tas d'un lot de plastique, par exemple, et il faut arriver à déterminer une certaine catégorie de plastique là-dedans. Donc avant, on donnait le protocole. Maintenant, c'est à l'élève. L'élève va devoir l'écrire. Donc il va devoir comprendre précisément ce qu'il fait. Et mener à bien son expérience. La partie pratique, la partie expérimentale, elle sera toujours à sa charge. Donc ce qu'il devait savoir faire avant, il doit toujours savoir le faire maintenant. Par contre, concevoir ce protocole-là, ce sera aussi à lui de le faire.
C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les élèves de deux périodes ne pourraient pas passer, ne pourraient pas croiser leurs épreuves.
Ce serait assez difficile puisque, par contre, ce que l'on avait avant, que l'on a moins maintenant, c'est par rapport à toutes les formules. On avait peut-être une maîtrise plus experte. Vous pouviez avoir des sujets où vous voyez apparaître l'équation de Bernoulli, par exemple, et on allait demander de déterminer une vitesse d'écoulement à un élève et il allait manipuler la formule et arriver à trouver ce résultat-là. Aujourd'hui, ce qu'on attend du candidat, c'est plutôt qu'il ait compris en fait à quoi correspond cette équation, savoir qu'on a une conservation de l'énergie et qu'à un moment donné, si la pression augmente, par exemple, la vitesse doit forcément diminuer parce que ce sont les deux facteurs qui vont apporter de l'énergie dans le système.
Catherine Thomas-Antérion, est-ce que c'est pas quand même une grosse évolution, une évolution de fond sur la façon de concevoir ce qui est une compétence ou une connaissance? On tourne autour de ces deux mots et on voit bien qu'ils induisent une grande différence dans l'évaluation.
Oui. Mais en même temps, c'est probablement reconnaître de façon positive ce qui est un enseignement professionnel et ce que va être le métier de demain. C'est-à-dire que dès lors, on prépare le candidat à certes apprendre des choses, connaître des équations, connaître des faits physiques, chimiques, etc. Mais à être opérationnel, c'est-à-dire à déjà faire travailler ses capacités de planification, de prise de décision, de choix des outils. Donc, on le met très tôt en confrontation avec ce que va être son parcours. Oui, c'est un changement, mais c'est un changement positif.
Est-ce que ça développe justement des capacités différentes suivant les deux modes d'apprentissage? Est-ce que quand on privilégie la connaissance et quand on conduit l'élève à cette compétence, est-ce que ça change quelque chose dans le cerveau, par exemple?
Alors, ça, c'est difficile de vous répondre, parce qu'il faut faire des imageries fonctionnelles dans des situations particulières pour pouvoir mesurer,
mais on sait... De vous, voilà. En fait. Hein.
Mais il y a eu quelques travaux qui ont été faits, pas forcément sur les étudiants de lycée professionnel, restons calmes, mais où on voit qu'effectivement, dans la technique des apprentissages par compétences, on va recruter des réseaux neuronaux beaucoup plus larges, qui impliquent davantage le lobe frontal, qui est un lobe de la recherche dans le stock de la mémoire, qui est un lobe de la planification du contrôle. Donc on va optimiser ces capacités-là, ou du moins on va optimiser ces réseaux-là. Lorsqu'on va inversement faire réciter une fable par cœur, eh bien on va faire activer des régions qui vont être plutôt en lien avec les stocks du langage. On voit que ces régions différentes travaillent, mais c'est pas pour ça qu'on peut dire tel étudiant qui a été formé comme ça va être meilleur que tel étudiant qui a été formé comme ça. Pour certains, qu'ils soient formés par une méthode ou par l'autre, au bout du compte, ils vont s'en sortir à peu près de la même façon. Mais objectivement, pour les étudiants qui avaient des difficultés avec le langage écrit, avec la compréhension de texte, notamment les sujets qui avaient des dyslexies, il y en a beaucoup qu'on oriente en lycée professionnel, hein, bon, il faut quand même le dire, ou des élèves qui n'aimaient pas le côté didactique d'apprendre des connaissances, ils vont pouvoir se réveiller et réveiller leur capacité de raisonnement, d'optimisation, de motivation par les méthodes par compétences, ça c'est certain.
Parmi vos élèves, à tous les deux, est-ce qu'il y a une proportion, quelle proportion y a-t-il d'élèves qui sont là par choix et ceux qui sont là parce qu'ils n'ont pas pu intégrer la filière générale, Jean-Luc Pernette? Vous avez une idée de cette proportion?
En fait, c'est très variable. Ça dépend des sections, tout simplement. Mmh. Puisqu'en fait, les élèves, notamment dans des zones très rurales, vont faire des choix par défaut, parce qu'ils sont très peu mobiles. Donc ils vont regarder un petit peu la carte de formation qui est proposée et puis vont choisir en fait ce qui va leur plaire le plus ou je dirais ce qui va leur déplaire le moins. Ce qui fait qu'on a des sections par exemple de vente où on retrouve des élèves qui sont pas toujours très motivés par ça. Et à contrario, on a des sections plus avancées dans le professionnel. Je vais prendre par exemple des ébénistes. Mmh. Voilà, mmh. Des ébénistes. Là, on a en fait des élèves qui sont très motivés par la profession. Les menuisiers également. La maintenance automobile va aussi avoir sa capacité de séduction. Et donc, c'est très variable. Pour généraliser, essayer de l'ordre de 10% des élèves qui font un vrai choix d'orientation non contraint, on va dire.
Alors ça, c'est à Autun, dans une petite ville,
tout à fait.
On peut le dire. Et qu'en est-il à Marseille?
Alors à Marseille, la problématique, elle est forcément différente. Rien que sur la ville, on a 18 lycées professionnels, ne serait-ce que pour l'enseignement public. Donc là, il y a à peu près tous les métiers qui sont représentés sur la ville. Ça dépend vraiment des spécialités, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de spécialités qui sont extrêmement demandées et où les élèves ont énormément de mal à rentrer, qui sont très sélectives. À côté
par exemple,
de ça... Par exemple, tout ce qui est lié au métier de l'énergie, ce qu'on appelle couramment la plomberie, donc c'est les bacs professionnels, techniciens, installateurs de systèmes énergétiques et climatiques ou de maintenance de systèmes énergétiques et climatiques, ça c'est extrêmement, extrêmement demandé. Il y a beaucoup d'établissements qui le proposent sur la ville et tous ont un taux de pression qui est très fort. À côté de ça, il y a d'autres professions.
Taux de pression, c'est-à-dire
taux de pression, c'est le nombre,
la demande,
le nombre d'élèves de troisième qui demandent ces filières-là par rapport au nombre de places qu'il y a. Quand vous avez un taux de pression de 4 ou 5, ça veut dire qu'il y a 4 fois plus d'élèves qui ont demandé la formation que ce qu'il y avait de places. A contrario, quand vous avez un taux de pression de 0,5, ce qui peut arriver dans certaines spécialités, ça veut dire que si vous avez 24 places, sur la ville, il n'y a que 12 élèves qui ont demandé. Et là, c'est plus compliqué. Alors c'est souvent le fait de métiers qui sont mal connus, c'est compliqué quand on a 14 ou 15 ans de se projeter comme peut-être géomètre topographe ou menuisier aluminium, enfin des métiers qui sont très spécifiques, qui recrutent bien, mais qui parlent pas forcément aux élèves. On va avoir un contexte familial qui va énormément jouer, c'est-à-dire que certains élèves vont rentrer dans les formations parce que dans leur famille, quelqu'un fait ce métier-là, ils le connaissent et ils ont envie d'apprendre la même chose. Après... À un moment donné, il y a certaines sections qui vont être remplies avec les jeunes qui n'auront été affectés nulle part, donc ce qu'on appelle les post-affectations. Et là, ce sera vraiment un des rôles du lycée professionnel. Alors le professeur de sciences y contribuera, ça sera quand même plus les enseignants de spécialité qui seront là-dessus. Ce sera donc aux enseignants de lycée professionnel de motiver l'élève par rapport à sa spécialité professionnelle et par rapport à son métier.
Par rapport aux 10% que citait Jean-Luc Pernette d'élèves qui ont vraiment choisi cette filière, quel chiffre vous donneriez de votre propre expérience?
Je pense que je serais un petit peu plus optimiste que ça. Après, il faut bien comprendre qu'on a certains élèves... l'enseignement professionnel continue à faire peur, beaucoup moins qu'il y a quelques années, mais on a certains élèves qui vraiment voudraient venir en lycée professionnel et qui vont souvent être orientés vers des secondes générales et qui ne reviendront vers des études professionnelles que en BTS ou en IUT, on va dire. Mais des jeunes qui sont très attirés par un métier et qui vont choisir la sécurité, entre guillemets, d'un bac général qui a la réputation d'offrir plus d'opportunités avant de revenir sur des formations plus techniques en premier cycle universitaire.
Alors, ce que vous nous apprenez sur la façon d'évaluer les élèves est très intéressant et pose une question, c'est-à-dire finalement, est-ce que ces 5 compétences que vous nous avez rappelées, Jean-Luc Pernette, qui sont s'approprier, analyser, raisonner, réaliser, valider et communiquer, on n'a pas la sensation qu'elles sont entièrement dédiées à un enseignement professionnel? Est-ce que ça serait une erreur de dire qu'elles ont une valeur, ces compétences, qui dépassent cette formation, cet objectif professionnalisant?
Ah bah, je crois que non, ça ne serait pas une erreur. Je crois que c'est vraiment la volonté, c'est d'avoir quelque chose de très ouvert et de montrer qu'au travers en fait différents secteurs, on a une ouverture sur une façon de procéder face à une difficulté ou enfin un problème, une situation problématique rencontrée.
Ça renvoie quand même à la professionnalisation. C'est un terme qu'on retrouve après à l'université, d'essayer de professionnaliser un peu plus certaines voies universitaires. Et de toute façon, là, on semble restreindre cette qualification de professionnalisation au lycée professionnel, alors qu'en réalité, tout le monde cherche un emploi quand on est au lycée ou au collège, et au lycée en particulier. François Moussavou.
En réalité, cette approche par compétences, elle va arriver au collège, avec la réforme du collège à la rentrée 2016. Elle est déjà présente dans les sections de techniciens supérieurs, elle est présente au lycée aussi. Vous avez ces compétences-là. Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes intitulés, mais à travers les compétences qui sont présentées au collège, au lycée général et technique, et puis en section de techniciens supérieurs, et même, je crois, jusqu'en classe préparatoire, on retrouve à peu près les mêmes éléments. Et ces éléments-là, effectivement, ils sont importants parce que c'est pas vraiment lié à la spécialité professionnelle, c'est lié à la posture attendue par les employeurs. On cherche aujourd'hui non pas des personnels qui soient des exécutants, qui soient des répétiteurs d'un geste technique particulier, mais plutôt les entrepreneurs cherchent des collaborateurs qui soient capables de s'adapter. Et cette formation-là, en sciences et en mathématiques, puisque la grille est la même en sciences et en mathématiques, va participer de ça.
C'est ce que vous disiez un petit peu, Catherine Thomas-Antérian, tout à l'heure, sur cette différence entre une acquisition de simples connaissances dont on sait qu'elles ne sont pas forcément totalement ancrées dans le cerveau pour toujours. Et en revanche, peut-être que la compétence, elle, a plus de chances de rester longtemps et à disposition de l'élève et donc du futur travailleur.
Alors, la compétence a plus de chances de rester, à condition quand même d'être entretenue. D'être entretenu régulièrement, etc. Alors, si on prend un domaine trivial, on dit le vélo, on l'oublie jamais, mais on peut pas faire complètement l'analogie avec des compétences qu'on a mis en place comme ça, scolaires. Il faut quand même les réviser régulièrement. Il faut qu'elles soient rafraîchies.
Mais dites rafraîchies, ça veut dire pratiquer. Parce qu'en fait, cette démarche est d'une grande logique et peut s'appliquer à peu près à toutes les situations de la vie, pas uniquement dans le cadre du travail.
Je dirais que ça répond à deux choses. Ça répond d'abord qu'un maximum de connaissances vont être accessibles immédiatement avec des moteurs de recherche maintenant. C'était pas le cas autrefois. On a besoin d'une notice technique pour quelque chose qu'on fait pas souvent. On appuie sur un bouton, on a la notice. Alors qu'il y a encore quelques années, si on n'avait pas quelques bases, on avait du mal à la retrouver. Donc déjà, il y a beaucoup de connaissances qu'on n'a plus besoin de savoir tout de suite, comme ça, immédiatement et autres. Par contre, il faut développer nos capacités de savoir où chercher, comment chercher, générer des mots-clés, trouver l'indispensable pour pouvoir faire notre action. Et la deuxième chose, on va avoir besoin de personnes plus créatives, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir résoudre des problèmes. Et ça, il faut reconnaître que l'évaluation par simple connaissance, sans vérifier comment elles ont été acquises et qu'elles ont transformé dans l'individu de façon pratique, ça va paraître de plus en plus caduque.
Alors, on critique souvent cette méthode en disant que justement à cause d'Internet, à cause des moteurs de recherche, à cause de ces bases de données sans fin, sans fond, on atrophie une partie de nos capacités cognitives, en particulier celle de la mémoire. Est-ce que cet effet-là est confirmé et est-ce que finalement il prend le pas ou il pourrait prendre le pas sur ce qui se développe par ailleurs ou bien est-ce que ce changement est globalement favorable?
Alors, comme toujours, on peut pas répondre blanc ou noir, mais c'est évident que c'est un changement de fonctionnement. C'est un peu la révolution qui est arrivée quand l'écriture est arrivée, quand l'imprimerie est arrivée. Avant l'imprimerie, on faisait des monastères cisterciens avec des architectures très compliquées pour que les moines puissent, en faisant le tour du cloître, retrouver les versets, les psaumes, etc., ou qu'ils devaient réciter parce qu'ils n'avaient pas de papier pour avoir quelques notes. Puis petit à petit, on a simplifié tout ça, il n'y en avait plus besoin, ils apprenaient plus par cœur tout ça parce qu'ils avaient la possibilité de lire le texte. Ils ne sont pas appauvris pour autant, ils ont développé d'autres capacités. On est à une espèce comme ça de changement où on aura accès à la mémoire. Pour quand même y avoir accès et bien l'utiliser, il faut quand même avoir des apprentissages en mémoire et soi-même développer des connaissances, parce qu'autrement, on ne peut pas s'en servir. Mais on va probablement mieux utiliser le cerveau dans d'autres domaines que sont le raisonnement, la logique, la déduction. Et ça, on ne peut quand même pas regretter qu'on essaye d'éveiller dès le jeune âge au fait de résoudre des problèmes plutôt qu'apprendre des solutions sans comprendre le problème.
Jean-Luc Pernette, vous avez cité tout à l'heure ce problème de la vitesse du son présenté sous deux aspects différents, deux formes différentes, avant la réforme et après. Est-ce que, d'après votre expérience d'enseignant, les connaissances qui sont utilisées dans le cadre de cette démarche-là, d'application finalement à la résolution d'un problème, est-ce que ces connaissances-là ont plus de chances d'être mémorisées justement à long terme que des connaissances qui seraient moins exploitées de cette façon.
Je pense que, je vais peut-être m'adresser plus à la neurologue parce que ça me paraît fondamental d'avoir son avis.
Non, mais
pour étayer un petit peu ce que je vais pouvoir dire éventuellement. Je crois que ici on joue sur deux facteurs, c'est-à-dire la mémoire des connaissances, mais aussi la mémoire des gestes. Qu'on n'avait peut-être pas autant mis en avant dans l'ancienne procédure. C'est-à-dire que tout était détaillé. Pour donner l'exemple de la vitesse du son, on allait dire poser le micro à tel endroit, régler sur tel paramètre l'oscilloscope, etc. Alors qu'ici, on va laisser quand même le libre arbitre, l'esprit critique de l'élève, à rude épreuve, pour que lui sache dire.
Mais il faut qu'il ait des idées.
Exactement. Voilà, on parlait de création tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment ça. Mais il y a aussi le fait d'avoir répété les procédures pour pouvoir s'habituer au matériel, aux situations. Ça permet aussi de mémoriser différemment. D'ailleurs, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, on travaille également sur ce registre-là, c'est-à-dire la mémorisation, comment on fonctionne.
Oui, vous vouliez intervenir, Catherine Thomas-Antérion.
Oui, compte tenu que pour qu'une mémoire soit la plus efficace possible, il faut qu'il y ait le plus d'associations possible. C'est clair que si on joint une mémoire motrice, on augmente le nombre de connexions neuronales et le nombre d'indices pour rendre solide la mémoire. Donc, on va la renforcer et on va en plus permettre qu'elle survienne en situation. On va faciliter les automatisations. Donc, on ne va pas avoir seulement une mémoire déclarative de concept, mais on va avoir une mémoire non déclarative totalement automatisée. Donc, on va augmenter le champ des systèmes de mémoire qui vont intervenir plus tard dans la fonction et la compétence.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albergonti.
Nous débattons aujourd'hui la question physique-chimie, comment préparer au mieux le bac pro avec nos invités François Moussavou et Jean-Luc Pernette, professeurs de mathématiques et sciences physiques et chimiques en lycée professionnel, et Catherine Thomas-Antérion, docteur en neuropsychologie et spécialiste de la mémoire. Je voudrais qu'on reste peut-être un moment sur cette notion avec vous. Je ne vous ai pas posé encore la question, François Moussavou, de votre propre expérience par rapport à ce que vient d'expliquer Jean-Luc Pernette et qui est confirmé finalement par Catherine Thomas-Antérion.
Oui, moi je pense que vraiment le fait que les élèves aujourd'hui apprennent leurs connaissances dans quelque chose de plus global, ça les aide effectivement plus tard à les réactiver. C'est-à-dire que la formule qui était apprise par cœur avant, qui était, j'aurais tendance à dire, oubliée dans le mois qui suivait l'épreuve du baccalauréat, elle sera peut-être pas plus connue avec le système actuel. Par contre, l'élève qui en aura besoin, le futur adulte qui en aura besoin, aura plus de facilité à la retrouver. J'aurais tendance à faire ce pari-là.
Et il pourra faire des associations, comme l'a souligné plusieurs fois Catherine Thomas-Antérion, entre ces notions et puis une expérience qu'il a réalisée ou un problème qu'il a résolu.
Tout à fait. On aura, alors c'est un petit peu l'idée de toujours caler nos enseignements sur des situations. On va avoir, il me semble...
Un autre exemple peut-être que celui de la vitesse du son à nous citer, de votre expérience.
Sur
un type justement de situation de ce type qui est proposé aux élèves lors d'une épreuve de contrôle en cours de formation.
Un exemple simple, on peut faire des calculs de rendement par exemple. C'est une formule assez simple que les élèves avaient à apprendre par cœur il fut un temps. On va prendre un sujet, on va donner deux bouilloires aux élèves lors d'un examen et puis on va leur demander quelle est la bouilloire qui a le meilleur rendement. Donc le premier réflexe, ce serait de comparer les puissances, en fait, de savoir quelle est la plus performante, de comparer les puissances. Et puis en fait, on l'élève à s'apercevoir, alors soit il a fait le cours avant, soit on est dans une action de formation, et on va l'amener à se poser les bonnes questions. Puis il va se dire, je connais la capacité thermique massique de l'eau, ou je peux facilement la retrouver sur Internet. Je vais prendre une certaine quantité d'eau, je vais prendre un chronomètre, je vais mesurer la température dans chacune des deux bouilloires sur un temps donné, et puis à la fin je pourrais faire un calcul de rendement ou savoir quelle est la bouilloire qui a le meilleur rendement. Ce type d'approche, le fait de faire ce protocole-là, qui n'est pas du tout unique, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'arriver à une certaine température, ou on peut choisir de laisser fonctionner les bouilloires pendant un certain temps, ça c'est quelque chose qu'on faisait absolument pas avant. Quelqu'un qui sait faire ça, qui a compris comment on faisait ça, on n'est pas certain que 10 ans après avoir passé le baccalauréat, il se souviendra exactement de ce que c'est que la puissance, de comment on calcule un rendement. Par contre, il y a de plus grandes chances que s'il a besoin de le faire, ce sera beaucoup plus facile pour lui de réactiver ces connaissances-là, parce que dans sa mémoire, elles sont incluses à l'intérieur de procédures.
Oui, Catherine.
Et on voit aussi que l'étudiant aura moins. Aura moins de risques d'apprendre des mauvais apprentissages, d'avoir des apprentissages avec erreur et puis de les reproduire tout le temps, parce que l'enseignant va voir en direct là où ça coince, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, quelle est la donnée qui lui manque, quelle est la fausse direction qu'il a pris dans son raisonnement. Et donc c'est aussi très important parce que ça peut réajuster le travail de transmission de l'enseignant qui voit en direct ce dont l'étudiant saisit de ce qu'on vient de lui transmettre avec les deux bouilloires. Donc ça, c'est fondamental.
Jean-Luc Pernette, ça complique quand même un peu le travail de l'enseignant, et d'après tout ce que vous nous décrivez, on sent une parenté ou une filiation avec des méthodes comme la main à la pâte qui sont beaucoup intéressées plus au primaire dans un premier temps, même s'il y a des tentatives dans le secondaire, pour appliquer des choses qui sont très proches, au fond.
Enfin, je suis heureux que vous parliez de la main à la pâte, parce que je suis à même de vous en parler un peu mieux. Je suis détaché auprès d'un centre pilote partiellement à Dole, dans le Jura. Et effectivement, cette approche est très, très, très voisine. On cherche à mettre en œuvre des choses qui s'apparentent à ce qu'on appelle une tâche complexe, pour éviter justement d'avoir uniquement le savoir à faire ressurgir, mais aussi les savoir-faire qui sont autant de procédures qui, comme le rappelait François tout à l'heure, vont permettre de réactiver les connaissances d'une part, mais aussi tout le contexte qui va autour de la situation rencontrée.
Donc ça veut dire un peu, peut-être, que le lycée professionnel, tout comme l'école primaire avec la main à la pâte, expérimente des choses qui, semble-t-il, d'après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, François Moussavou, pourraient déborder de ce cadre-là et toucher également l'enseignement en général.
Alors très souvent, le lycée professionnel a été précurseur sur un certain nombre de méthodes pédagogiques. Il me semble que ça continue à être le cas aujourd'hui. On parlait des sciences physiques, mais en mathématiques, on a aussi une approche qui est très différente au lycée professionnel depuis la réforme de ce qu'on peut avoir au lycée général, avec le fait que cette discipline-là soit entrée dans le champ des disciplines expérimentales, par exemple, ce qui n'est pas le cas encore au lycée général. On a effectivement un champ d'expérimentation privilégié, on aurait tendance à dire, du fait que les élèves de lycée professionnel sont souvent en recherche de quelque chose de différent.
Difficulté, en fait, c'est une autre façon de le dire.
On a encore beaucoup d'élèves, c'est pas la totalité des élèves, mais ça a été précisé à plusieurs reprises, on a encore beaucoup d'élèves qui ont été peut-être en difficulté au collège ou qui ne se sont pas complètement retrouvés dans l'école du collège et qui sont contents au lycée professionnel de continuer à avoir un niveau d'exigence important au niveau scientifique et mathématique, mais avec une approche un petit peu différente.
Catherine Thomas-Antérion, est-ce que pour vous, c'est ce dont on parle préfigure une véritable évolution plus générale que celle qui est à l'œuvre à l'école primaire avec la main à la pâte ou en lycée professionnel avec ce que nous venons de découvrir et d'explorer? Est-ce que c'est quelque chose qui a potentiellement une valeur de généralisation de votre point de vue en termes de capacité d'apprentissage?
Mais on sait que dans certains pays, notamment au Canada, c'est des méthodes qui ont envahi absolument tout le champ de l'enseignement et des validations, y compris à l'université. Et on voit bien, du reste, qu'il y a d'autres tentatives d'introduire ces méthodes d'apprentissage et ces méthodes de validation dans les études universitaires. En médecine, on commence aussi comme ça à faire des compétences à propos de situations cliniques médicales. On n'apprend plus les matières une par une, la rhumatologie, la neurologie, etc., sans faire du lien globalement autour des patients, etc., etc. Il va rester maintenant des bastions et à définir du reste les connaissances générales communes indispensables à continuer à apprendre de façon, disons, ancienne en bâtissant des savoirs conceptuels. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser un petit peu pour effectivement devenir plus pratico-pratique, y compris dans des domaines comme les sciences humaines, etc.
Donc une capacité à se généraliser, mais
c'est sûr.
Des difficultés, enfin du moins une situation. Donc il faut quand même parler en quelques mots, Jean-Luc Pernette, qui est le fait que certains candidats ne peuvent pas suivre cette évaluation en continu, ou voilà, je ne voulais pas le dire, mais en cours de formation, et réussi à tenir presque jusqu'au bout, en disant pas formation continue. Donc en cours de formation, ce sont les élèves indépendants et libres et les CFA. Alors vous allez l'expliquer.
Alors donc, tout le monde connaît l'apprentissage. Alors l'apprentissage, souvent se fait dans des centres d'apprentissage, c'est-à-dire directement chez le professionnel pendant une longue période. Souvent c'est deux semaines en entreprise, une semaine en école, ou à peu de choses près, c'est ce schéma-là, où la formation s'opère en grande partie chez le professionnel. Donc le temps de formation en établissement est trop court, et donc du coup ne permet pas de mettre en place le contrôle en cours de formation. Donc pour ces élèves, on a encore une épreuve ponctuelle qui s'apparente un petit peu au sujet de CCF dont on parlait tout à l'heure, tel que la vitesse du son ou encore l'exemple qu'a fourni François. Et on va avoir une épreuve qui va d'ailleurs débuter ce mardi pour beaucoup de candidats, qui va être étalée jusqu'au 2 juin. Après, ça dépend des académies, parce que je crois que c'est
il y a deux semaines en fait.
Voilà, il y a deux semaines. Voilà. Donc, et les académies regroupent plus ou moins les épreuves, parce que ça mobilise énormément de professeurs pour peu de candidats. En l'occurrence, par exemple, sur l'académie de Dijon, on doit avoir aux environs 350 candidats à faire passer. Donc sur deux jours et demi, et ça va mobiliser à peu près 60 professeurs. Donc ce qui représente quand même un nombre important. 60 professeurs, c'est à peu près, que je dise pas de bêtises, un tiers des effectifs de professeurs de lycée professionnel en mathématiques et sciences physiques. Donc c'est pour montrer un petit peu l'importance. Donc pour ces candidats, on a une épreuve ponctuelle. On peut parler éventuellement de sujets type, puisqu'il y a des sujets zéro qui ont été présentés, qui sont disponibles sur de nombreux sites. Alors je vais en reprendre un, parce que je l'ai sous les yeux, ce sera plus simple. Pré-contrôle d'un véhicule automobile. Un automobiliste se range chez son garagiste avant de subir le contrôle technique, et le garagiste regarde son véhicule, appuie sur le capot assez fortement, lâche le capot et voit les oscillations du véhicule, et répond à son client, en fait les amortisseurs sont morts, il va falloir les changer. Alors le client est un peu perplexe, fait exactement la même manipulation, mais il appuie un petit peu moins fort parce qu'il s'agit quand même de sa voiture. Et puis il voit des petites oscillations, mais il se dit qu'est-ce qui permet au garagiste de justifier le fait de changer ou non les amortisseurs. Donc la question est simple. La question qui est posée au candidat, c'est: la fréquence des oscillations est-elle la même quelle que soit l'amplitude de la stimulation initiale? Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour proposer une expérimentation qui va répondre à cette question? Donc le candidat aura à sa disposition un petit peu de matériel. Le matériel qu'on connaît classiquement en salle de TP, c'est-à-dire des ressorts, des masselottes, éventuellement une éprouvette avec un liquide. Et puis après, c'est à l'élève de faire des propositions, de regarder est-ce qu'il faut chronométrer, etc. Donc voilà un exemple type de sujet.
Alors peut-être d'une façon plus générale, Catherine Thomas-Ontarian, quelques conseils en fin de cette émission sur la préparation psychologique au bac. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose, et effectivement c'est un moment critique à la fois pour les candidats mais aussi pour leur famille. Et donc quand la date approche, j'imagine que la tension monte. Alors que faire ?
Alors, il faut déjà éviter qu'elle monte trop. Alors, un peu de stress, c'est pas mal. C'est comme le trac au théâtre. Ça augmente la motivation, mais il faut vraiment lutter contre le stress. Donc, autant qu'on le peut, ben, se détendre, c'est bien facile à dire. Souvent, en fin de journée, quand on a fini de réviser avant le repas du soir, une petite marche, 20 minutes de marche ou un peu de musique. Enfin, tout ce qui marche. Et attention, les sujets stressés, bien se rappeler le jour du bac de lire deux fois son énoncé pour rien oublier. On sait jamais. Le stress est mauvaise conseillère. Bien surveiller son sommeil. Le sommeil, c'est très important pour mémoriser. Pendant le sommeil, on continue à travailler. Donc, rien n'a sert de travailler 2 heures de plus le soir, de s'y épuiser et de mal dormir. C'est tout l'inverse. On se couche pas trop tard, on dort bien et on évite les excitants l'après-midi qui peuvent perturber le sommeil. Si on le peut, on fait une petite sieste. Pourquoi ? Parce qu'en postprandial, on travaille moins bien au niveau des circuits neuronaux parce qu'on digère, donc on est privé.
En
postprandio, pardon. Oui, après le repas, le cerveau nous pompe, l'oxygène du cerveau est pompé par l'estomac qui digère. Donc, autant aller faire une petite sieste réparatrice de 20 minutes. Si on n'arrive pas à dormir parce qu'on n'a pas l'habitude, eh bien on se détend. Parce qu'une vraie sieste où on dort 20 minutes, on est reparti pour des cercles d'apprentissage solides parce qu'on a vraiment réoxygéné les neurones. C'est tout à fait démontré. Donc on ne perd pas de temps à perdre un temps de sieste de 20 minutes. C'est tout l'inverse. On gagne du temps sur la qualité des apprentissages. On s'alimente au mieux. On mange un peu de tout ce qu'on aime et on n'oublie pas les sucres lents aux 3 repas. Hein, parce que les sucres lents vont éviter les hypoglycémies. De la même façon, quand on va travailler activement, on va consommer du sucre. Donc on a besoin de sucre rapide, mais aussi de sucre lent. On a le droit de faire des collations, on a le droit de se gâter un peu, de manger des petites sucreries parce que ça fait du bien. Et quant au travail, bah, psychologiquement, il va falloir changer souvent de méthode, changer souvent de matière, toutes les 20 minutes, 30 minutes, pour que le cerveau reste motivé, attentionné, et surtout qu'on utilise des traces de mémoire différentes et qu'on les rende donc actives par le changement. Et autant que possible, si on l'a fait toute l'année, bien utiliser les petites notes de travail, les mots-clés, les petits schémas, les petites figures qui nous permettront, lorsque la question du bac tombera, de repasser par ces mots-clés, ce petit schéma, pour retrouver le déroulé du cours, les associations et répondre le mieux possible à la question qui sera posée.
Alors voilà des conseils qui, d'abord, sont très nombreux et précis et, je pense, très utiles pour nos auditeurs et qui, en même temps, rompent un peu avec le bachotage tel qu'on l'imagine encore, on l'imaginait il y a peu de temps. Comment vous réagissez, François Moussavou, en quelques mots, parce qu'on approche du terme de l'émission?
Oui, mais enfin, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut dire aux candidats et la façon dont il faut aborder ces épreuves-là. Plus spécifiquement, moi je voulais parler des candidats qui vont passer l'épreuve de sciences en ponctuel, donc la semaine prochaine. Bien rappeler quand même que l'évaluation qui va être faite de ces candidats, c'est la même que celle qui est faite en CCF, avec le même type de grille de compétences. Donc ils vont aussi être évalués par compétences, mais sur un examen ponctuel.
Oui, d'ailleurs on a vu d'après l'exemple qu'a donné Jean-Luc Pernette que c'est le même type finalement de problème qui se pose.
Le même type de problématique et la même grille d'évaluation. Et juste si je peux donner juste un petit conseil de mon expérience d'examinateur, à l'intérieur des sujets, il y a des appels. Certains candidats n'utilisent pas les appels parce qu'ils pensent qu'ils savent faire le sujet entièrement. Or, lors des appels, ils sont évalués. Donc, il faut absolument faire ces appels-là puisque l'examinateur évalue des compétences de communication lors des appels. L'appel, c'est un petit symbole qui dit au candidat qu'il doit appeler l'examinateur pour discuter avec lui.
Très bien. Eh bien, le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à François Moussavou, Jean-Luc Pernette et Catherine Thomas-Ontarion d'avoir participé à cette émission. Sur notre site, vous trouverez des liens concernant le bac pro et les épreuves de physique-chimie, ainsi que les références de l'ouvrage de Catherine Thomas-Ontarion intitulé « La création artistique sous l'œil des neurosciences ». Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant 1 an, bien entendu, nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. C'est possible tout en bas de la page de Sciences Publiques. La semaine prochaine, vendredi 3 juin, Sciences Publiques participera à la semaine consacrée par les émissions de Culture Science à la relève des savoirs. Nous recevrons des jeunes lauréats de concours ainsi que des représentants des chercheurs en colère à la suite de l'annonce par le gouvernement d'annulation de crédits pour la recherche française. Annonce qui a provoqué la publication d'une tribune dans le journal Le Monde signée par 7 prix Nobel et une médaille Fields pour dénoncer ce qu'ils nomment un suicide de la recherche. Quel impact sur les jeunes talents tentés par une carrière scientifique. Nous en débattrons dans Sciences Publiques avec nos invités, parmi lesquels Patrick Lemaire, porte-parole du collectif Science en Marche. Sciences publiques, Viviane Noël, Jean Frédérics, avec Vincent Cuna à Lille, pour France Bleu Nord, Marie Dalquier, Michel Albertanti.